VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Il est midi à Abidjan, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Burundi, un émissaire américain est en visite dans le pays pour des consultations avec les acteurs politiques et les membres de la société civile. Depuis dimanche, Bujumbura est le théâtre de manifestations contre un éventuel troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Félix Yepassi Zembrou.
Tom Malinowski, secrétaire d'État adjoint aux droits de l'homme et à la démocratie, s'est dit déçu que le président Pierre Nkurunziza n'ait pas respecté l'accord d'Arusha qui a mis fin à la guerre civile en 2006. Mais selon lui, il n'est pas trop tard pour rester sur un chemin démocratique et pacifique. Il a promis de parler à autant de gens et partis possibles sans préciser lesquels. Samedi dernier, le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, a désigné M. Nkurunziza candidat à l'élection présidentielle du 26 juin. L'opposition et la société civile estiment que c'est une candidature de trop après ces deux mandats.
Alors que la tension monte au Burundi en rapport avec la question d'un autre mandat pour le président Nkurunziza, les États de la région observent la situation en silence. Par contre, l'Union africaine est montée au créneau et déploie des efforts pour mettre fin à la crise. Lionel Gaïma.
Toujours pas des réactions des pays voisins du Burundi après des jours de manifestations qui ont fait au moins deux morts et entraîné la fermeture des radios privées par le gouvernement. Aucune déclaration de la communauté des États d'Afrique de l'Est à laquelle appartient le Burundi. Sarah Jackson, directrice d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Est, voudrait voir une réponse régionale plus vigoureuse.
Nous aimerions voir une action concertée de la communauté est-africaine. Leur silence est notable compte tenu de la situation. Toutefois, il est aussi possible qu'ils travaillent au niveau multilatéral à travers l'Union africaine en vue d'une réponse continentale.
L'Union africaine a annoncé l'envoi d'une délégation de haut niveau au Burundi dans l'espoir d'atténuer sa tension, une implication dont se félicite Sarah Jackson. Le Sénat burundais a demandé à la Cour constitutionnelle du pays de déterminer si, oui ou non, le président Nkurunziza a droit à un autre mandat. Le président et ses partisans disent qu'il a été élu en 2005 par le Parlement et qu'il peut encore se représenter, la Constitution stipulant que le président de la République est élu au suffrage direct. Les protestataires, eux, soutiennent que cette position viole les accords d'Arusha de l'an 2000 qui précisent que tout président ne peut exercer que deux mandats au maximum.
Le président français François Hollande a déclaré aujourd'hui qu'il serait implacable si certains militaires se sont mal comportés, alors que la justice française enquête sur les accusations de viol d'enfants par des soldats français en Centrafrique. Pour sa part, le ministère français de la Défense a indiqué qu'il vérifiait la réalité de ces accusations et assuré n'avoir aucune volonté de cacher quoi que ce soit. En RCA même, l'ONU confirme avoir mené au printemps 2014 une enquête sur les accusations d'exploitation sexuelle et d'abus commis sur des enfants par des soldats français avant le déploiement de la mission onusienne MINUSCA. Le point avec Eddy Issango.
Selon Farhan Haq, porte-parole adjoint de l'ONU, un responsable onusien a été suspendu pour avoir transmis en juillet 2014 les résultats d'une enquête aux autorités françaises sans en référer à sa hiérarchie. Selon les rapports onusiens, une dizaine d'enfants ont été abusés par des soldats français entre décembre 2013 et juin 2014. L'enquête a été menée par le Bureau des droits de l'homme de l'ONU, qui était à l'époque dirigé par Anders Kompass à Bangui. La MINUSCA s'est déployée en septembre 2014 en Centrafrique et cette affaire concerne les militaires français de l'opération Sangaris qui se trouvaient déjà dans le pays. La justice française a ouvert une enquête préliminaire. Les ministères français de la Défense a promis des sanctions le plus fermes contre les auteurs si les soupçons d'abus sexuels sont confirmés.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Togo, tout comme en 2010, le candidat Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition, conteste la victoire du président fort Niasingbe au présidentiel de la semaine dernière. Des précisions avec notre correspondante à Lomé, Kai Lawson.
Les résultats proclamés ce mardi 28 avril 2015 par le président de la CENI sont des résultats frauduleux.
Jean-Pierre Fabre, le candidat de combat pour l'alternance politique en 2015, CAP 2015, rejette en bloc les résultats proclamés ce 28 avril par la Commission électorale nationale indépendante CENI et qui déclare Fornia Singbe le président sortant vainqueur. Aux yeux de Jean-Pierre Fabre, c'est un nouveau hold-up électoral et il promet ne plus se laisser faire une seconde fois. Le ministre de la Sécurité estime qu'un pas a été franchi et compte préserver la paix sociale. Le colonel Yak Damhan.
Il y a un vainqueur, il y a un vaincu, que la sagesse prévale, gare au désordre.
Kailasson Lomé pour La Voix de l'Amérique.
En Côte d'Ivoire, dissension au sein du Front populaire ivoirien, principal parti d'opposition. Les adversaires du leader actuel du FPI, Pascal Affine Nguessan, annoncent que l'ex-président Laurent Gbagbo est le nouveau chef du parti et que son investiture aura lieu aujourd'hui dans son village d'origine, Mama. Pour un coup de projecteur sur les déchirements au sein du FPI, Idriss Fall a joint à Abidjan César Etou, ancien directeur du journal Notre Voix, proche du FPI.
Le Front populaire ivoirien va investir le président Laurent Gbagbo à la tête du parti. Le président Gbagbo sera investi par les militants qui sont en train d'affluer dans le village de Mama où le congrès était programmé.
Mais n'y avait-il pas déjà une procédure en justice concernant le congrès du FPI?
Oui, il y a une procédure. La justice a fait reporter le 4e congrès ordinaire qui devait se dérouler. Les militants ont reprononcé la suspension du président en exercice, M. Pascal Affine Nguessan, et les militants ont organisé un troisième congrès extraordinaire à l'effet d'installer le président Gbagbo à la tête du parti. C'est contre cela que le président Affine Nguessan avait porté plainte, parce que ce monsieur est en train de tourner la page Gbagbo en Côte d'Ivoire.
Pourtant, c'était son ami, c'était son allié, c'était son premier ministre. Pourquoi?
Personne ne comprend pourquoi le président Affine Nguessan ne veut plus entendre parler du président Gbagbo.
Mais dans quel but? C'est pour se présenter face à Alassane Ouattara aux prochaines présidentielles ou quoi?
Certainement, il a annoncé de façon unilatérale et personnelle qu'il est candidat à la présidentielle de 2015. Or, au Front populaire ivoirien, les choses ne se passent pas comme ça. Le candidat est désigné par le parti. Ce n'est pas le candidat lui-même qui se propose à la candidature à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire.
En tout cas, Alassane Ouattara a besoin d'avoir le FPI en face de lui pour asseoir une légitimité.
Alors, il aura le logo du FPI porté par Affine Nguessan, installé par la justice. Il va battre le logo porté par Affine Nguessan, mais il ne battra pas le FPI en tant que parti politique. Parce que le FPI, son président s'appelle désormais Laurent Gbagbo.
Mais Laurent Gbagbo ne pourra pas se présenter, il est toujours en prison à La Haye.
Il est détenu, il n'est pas jugé, il n'est pas condamné. Or, celui qui est détenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée.
César Etou, ancien directeur du journal Notre Voix, proche du Front populaire ivoirien. Au Mali, le processus de paix traverse une zone de turbulence avec une grande incertitude concernant la signature de l'accord de paix d'Alger annoncé pour le 15 mai à Bamako. Claire Morin-Gibou nous en dit plus.
Des combats ont opposé hier des rebelles à l'armée malienne à Léré, près de la frontière mauritanienne. Un officier de l'armée malienne a affirmé que les troupes ont été attaquées par des rebelles touaregs de la coordination des mouvements de l'Azawad. La CMA avait prévenu mardi soir qu'il ne lui restait pas d'autre choix que d'user de son droit de la légitime défense. Les Gatia, une milice proche de Bamako, avaient repris lundi la ville de Ménaka, près de la frontière avec le Niger. Monji Hamdi, chef de la MINUSMA, a tiré la sonnette d'alarme, disant que le processus de paix est en danger. Pourtant, la médiation algérienne a annoncé pour le 15 mai la cérémonie de signature à Bamako de l'accord d'Alger, censé mettre fin à la crise malienne.
Pour terminer, le roi Salman d'Arabie Saoudite a procédé hier à un vaste remaniement renforçant le pouvoir de son clan au sein du royaume wahhabite, Issyakaba.
Ce remaniement est surtout marqué par un rajeunissement au sommet de la monarchie. Le prince Saoud Al-Faisal, inamovible ministre des Affaires étrangères depuis 40 ans, est remplacé par l'ambassadeur saoudien à Washington, Abdel Al-Jouber, 53 ans. Le souverain saoudien a éloigné du trône son demi-frère le prince Mokhren, 69 ans. C'est la première fois dans l'histoire du royaume qu'un prince héritier est écarté. Il est remplacé par Mohamed Ben Nayef, 55 ans. Ce neveu du roi a même pris du galon. Il est désigné vice-premier ministre et conserve ses fonctions de ministre de l'Intérieur. Une semaine après son intronisation, le roi l'avait désigné futur prince héritier, second dans l'ordre de succession. Cette position est maintenant occupée par l'un des fils du roi, le prince Mohamed Ben Salman, âgé d'une trentaine d'années et ministre de la Défense. C'est lui qui dirige l'opération militaire contre les djihadistes au Yémen.
Soyez au cœur de l'info.